Apocalypse, chapitre 11, versets 14 à 19. Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était et qui sera, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Vous asseoir. Pardon? Ah, ça prendrait une affaire automatique qui ferme le micro, qui roule le micro. OK, on avait tout simplement, la semaine dernière, mentionné que le titre du sermon qu'on a commencé la semaine dernière et qu'on termine cette semaine, l'avait intitulé « L'établissement du royaume final de Dieu ». On avait vu le royaume final qui était proclamé dans les versets 14 et 15. Le royaume final était projeté dans les versets 16 à 18. Et le royaume final pronostiqué, verset 19. On avait vu qu'on finissait une section, une parenthèse, qu'il y avait des versets dans les chapitres. Il y avait eu une parenthèse, et là, on terminait la parenthèse. C'est important de réaliser cela. Et ce que j'ai lu, c'est parce que j'ai commencé à étudier le chapitre 12, bien entendu, parce que là, on achève le chapitre 11, j'ai commencé à l'étudier. Et il y a un auteur qui William Hendrickson, qui fait une remarque, je trouve, extrêmement judicieuse pour nous faire comprendre. On avait vu un petit peu la semaine dernière que c'était l'idée que le Seigneur voulait montrer à son peuple, c'est, on appelait ça, voir la fin finale avant que la fin arrive, de donner une vision globale de ce qui s'en vient. Et on avait vu ça. Mais ce que M. Hendrickson fait, c'est qu'il nous dit que dans l'époque, là j'avance un petit peu sur le terrain la semaine prochaine, mais ça aide à comprendre cette semaine. Parce que lui, il dit la chose suivante, il dit que les 11 premiers chapitres, c'est l'histoire de l'humanité aller jusqu'à la fin du chapitre 11, mais ce qu'on pourrait appeler l'histoire visible, l'histoire extérieure, 1 à 11. Autrement dit, ce qu'on peut voir, c'est l'histoire du monde, mais que nous, les êtres humains, on peut voir qui s'exécute. Il dit, à partir du chapitre 12, là, c'est plus l'histoire visible du monde, c'est l'histoire cachée. Autrement dit, ce qu'on voit, nous autres, c'est que les événements politiques, les événements militaires, les événements qu'on peut voir, qu'on entend parler dans les journaux, dans les médias, etc. Mais là, il dit, à partir du chapitre 12, vous allez rentrer dans l'arrière-scène. Un peu comme quand on voit dans une pièce de théâtre, il y a la pièce de théâtre qu'on voit en avant, donc ça, c'est la partie visible. Mais dans toute pièce de théâtre, il y a eu des gens qui ont travaillé à la mise en scène. Alors, il dit, à partir du chapitre 12, ce que vous allez voir, c'est l'histoire cachée. Et là, il va commencer à nous montrer la même histoire que de 1 à 11, mais dans la perspective de ce qui est caché. Et qu'est-ce qui est caché? C'est Satan et Dieu. On va voir vraiment beaucoup plus à partir du chapitre 12, comment le Satan travaille sur la terre pour développer son royaume et comment Dieu va intervenir et va le détruire éventuellement. C'est très important de voir la différence parce qu'il y en a un, 1 à 11, c'est l'histoire visible des hommes. 12 à la fin, c'est l'histoire invisible. Autrement dit, ce qui se passe en coulisses. Pour que tout ça soit passé, ce qu'on, la partie visible, il fallait que le démon travaillait en arrière de tout ça. Et c'est intéressant de faire la... Parce qu'il dit, quand on arrive à la fin du chapitre 11, on commence le chapitre 12, et on dirait que ça n'a pas de suite, parce qu'il est en train de dire qu'il nous a fait voir la fin, et là, il recommence avec la naissance de Christ. Parce qu'on va voir la semaine prochaine, qui va arriver, puis il va dire, bon, il y a l'enfant, il y a la femme qui accouche, et Satan est là pour dévorer l'enfant. On va regarder ça la semaine prochaine. Mais c'est intéressant de voir, c'est comme si, à partir du chapitre 12, l'histoire humaine est racontée d'une façon différente, mais dans la perspective de l'histoire cachée des hommes. Autrement dit, que Satan travaillait à l'intérieur de tout ça, mais il va la reprendre du début, on va se rendre jusqu'à la fin. Mm-hmm. C'est très intéressant de voir la différence de perspective, et je pense que ça nous aide à comprendre. Alors, on va reprendre un petit peu ce qu'on avait vu la semaine dernière, donc le royaume final de Dieu qui est proclamé dans le verset 14 et 15. Alors, il nous dit que le second malheur est passé, que le troisième malheur viendra bientôt, et là, dans le verset 15, il nous dit quelque chose d'important. Or, le septième ange sonna de la trompette, et de grandes voix se firent entendre dans le ciel qui disaient « Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera des siècles et des siècles. » Il nous fait voir la fin des choses. Quand le Seigneur va avoir réussi à mater les hommes, autrement dit, et qu'il va, ça va être la victoire finale. Il veut qu'à la fin du chapitre 11, qui est l'histoire visible des hommes, qu'on voit la fin. Puis après ça, il reprend à partir du début, et de 12 à 22, il va expliquer la même histoire, mais dans une perspective de ce qui est caché. Très intéressant de noter cela. Alors, quand on sait que la septième trompette, les trompettes, on sait que ça servait à quoi dans l'Ancien Testament? Rappeler le monde, ça servait surtout militairement. C'était pour ramener le monde, ça comme amener les soldats à se préparer à la guerre. Et c'était aussi des avertissements. Alors, on sait que la septième trompette, c'est la dernière. Parce qu'on sait que dans le livre de l'Apocalypse, il y a sept trompettes. Et là, il vient dire que la septième est sonnée. Donc, si elle est sonnée, ça veut dire qu'il annonce des choses vraiment de la fin. La dernière avertissement. Après le dernier avertissement, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu va nous raconter la même histoire, mais dans la perspective des choses cachées. Il va nous montrer comment Malin travaillait et comment Dieu travaillait aussi à travers cela, contrôlait toutes choses. Alors, on avait vu l'autre idée aussi qui nous avait fait voir la fin. Il règnera au siècle des siècles. Il est en train de montrer qu'un jour, le Seigneur, Dieu le Père et Dieu le Fils vont vaincre les hommes. Les hommes vont finir par être vaincus et le royaume final de Dieu va finir par être établi. C'est ça qu'il avait voulu montrer aux hommes. Alors, on avait vu aussi, versets 16 à 18, c'est là qu'on voit que c'est vraiment une projection, une volonté d'exprimer à Jean et à toutes les églises qui étaient pour venir que la victoire finale était assurée. Versets 16 à 18. « Et les 24 anciens qui sont assis sur leur trône devant Dieu se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui sera de ce que tu as pris en main ta grande puissance et de ce que tu es entré dans ton règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue, et ainsi que le temps de juger les morts et de récompenser tes serviteurs les prophètes et les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. » On avait vu la semaine dernière un grand mot qu'on disait que ce que Dieu avait voulu, c'est de donner une vision qu'on appelle proleptique. Autrement dit, c'est comme si Dieu veut te montrer ce qui va arriver à la fin, avant même que les affaires, de nous montrer le côté du malin, le côté, la même histoire, mais dans la perspective des choses contrôlées par le malin. Alors, c'est ça que on avait, le pasteur Herman Oxema a fait la remarque, la vision proleptique. Il dit, mais dans notre portion, nous avons une vision proleptique révélant en quelques phrases tout l'effet de cette septième trompette. Une déclaration générale est donnée de l'effet de cette trompette vue du ciel. Alors, c'est intéressant de voir que Dieu permet qu'on voit la victoire finale et que les 24 anciens se prosternent devant Dieu, ils l'adorent et ils reconnaissent qu'il a eu la victoire en permettant que les nations soient domptées, comme on pourrait dire. Parce que ça dit, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, qui sera, de ce que tu as pris en main ta grande puissance et de ce que tu es entré dans ton règne. » C'est bizarre, pareil, parce qu'on est rendu à la fin du chapitre 11 et il leur fait voir la victoire finale alors qu'il reste encore tout chapitre 13 à 22. Alors, c'est pour ça qu'on voit, qu'on dit que c'est proleptique, il leur fait voir les choses finales avant que l'ensemble de la deuxième partie soit arrivé. Alors, on voit que les 24 anciens, ils font des choses en particulier, sont assis sur leur trône, ils se prosternent, ils adorent. Alors, ils voient que Dieu est victorieux et ça les amène à adorer. Se prosterner devant Dieu, c'est reconnaître ta puissance, ta force, ta souveraineté, que tu vas arriver à la fin, que tu vas établir ton royaume, malgré les innombrables difficultés que le malin va avoir semées sur la route. Alors, non seulement ils adorent, mais aussi ils font des actions de grâce, parce que dans le verset 17, ça dit « En disant, nous te rendons grâce. » Alors, les 24 anciens voient la fin et devant Dieu reconnaissent « On te remercie. » Rendre grâce, c'est remercier. Donc, te rendons grâce, Seigneur Tout-Puissant, qui est, qui était, qui sera, de ce que tu as pris en main ta grande puissance et de ce que tu es entré dans ton règne. C'est ça qui est bizarre, parce qu'on lit cette section-là, on serait porté à dire, ben, si les 24 anciens ont dit, rentré dans ton règne, comment ça se fait qu'à partir du chapitre 13, on voit le malin intervenir et le malin toutes les œuvres du malin vont être déclarées dans le chapitre 12, 13, 14, aller jusqu'à la fin. Alors, c'est important de voir alors, ils font des actions de grâce et ils reconnaissent la souveraineté absolue du Seigneur, dans le sens que ils voient que l'histoire, elle est dirigée, contrôlée de façon absolue par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, malgré les tentatives du malin d'empêcher cela, ça n'arrivera pas. Et il loue aussi Dieu pour sa puissance infinie. Ça prend de la puissance pour dompter les hommes qui collectivement disent « Non, on ne veut pas l'avoir ton royaume. » Lui, il va l'établir quand même. Et il parle aussi du fait que son royaume est éternel. Il va rentrer dans une partie de son règne qui leur dit « Les nations sont héritées. » Verset 18, « Se sont héritées. » Alors, bien entendu, quand on regarde l'histoire de la Terre depuis le début, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'ensemble des nations qui se sont toujours révoltées contre Dieu, encore plus aujourd'hui. On le voit de façon vraiment extraordinairement puissante aujourd'hui, que les nations, c'est que dans le psaume 2, ça dit « Pourquoi les nations de la Terre se sont-ils révoltées contre l'Éternel et son oint? » Aujourd'hui, on voit de plus en plus les hommes politiquement qui commencent à se révolter contre Dieu, à vouloir se débarrasser de toutes les valeurs chrétiennes et à vouloir dominer la terre et établir le royaume du malin. C'est ça qui se passe présentement, là. Alors, il dit, « Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes et les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. » On avait parlé la semaine dernière, ceux qui perdent la terre. Je veux juste vous reprendre un petit passage qu'on avait regardé la semaine dernière. Parmi les dégâts causés par l'avidité de l'homme, citons la déforestation. Ils sont en train de détruire les forêts du du monde entier. La disparition de nombreuses espèces animales et végétales. Ça, on pourrait faire... il y a des livres qui ont été écrits sur le sujet. Autrement dit, sont en train de briser la nature de Dieu. Autant végétalement que animal, que les animaux. La pollution des sols et des cours d'eau par les déchets et les pesticides. De l'air par les fumées des moteurs et des usines. L'épuisement des ressources naturelles. La surpêche, le braconnage, la maltraitance des animaux servant de nourriture. La destruction de la terre concerne aussi ses habitants qui sont victimes de la violence et de l'avidité de l'homme. Nous sommes en 2020 et les humains sont encore victimes de guerres, de famines. On parle de plus de 800 millions de personnes qui souffrent de la faim. Des catastrophes écologiques, de pauvreté, d'injustice, de maladies dues à la pollution du sol, de l'eau et de l'air. Alors, quand les gens se posent la question, si Dieu existe, pourquoi ne fait-il rien? La réponse est simple, c'est parce qu'un jour, Dieu dit qu'il va les juger. C'est ce qu'il dit dans le verset 18. Le temps est venu de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints, ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. Autrement dit, tous les gens qui sont responsables en arrière de toutes ces choses-là qu'on vient de nommer, le Seigneur dit qu'il va les juger. Le temps est venu de les juger. Mais c'est pour ça que ce que je vous ai dit au début, la question de 1 à 11, c'est l'histoire visible des hommes, l'histoire extérieure, observable, tandis que de 12 à 22, c'est plus l'histoire cachée et la main du malin qui travaille en arrière de tout ça. Autrement dit, ce qui se passe en tant qu'on observe, il ne faut pas oublier qu'il y a quelqu'un en arrière de tout ça qui fait avancer toutes ces affaires-là pour établir le royaume du malin. On a été rendu là. Donc, il y avait deux aspects de la rétribution divine. Il y avait la récompense des croyants et la punition des incroyants destructeurs de la terre. Et dans les deux cas, c'est intéressant, c'est les petits et les grands. Parce qu'on serait porté à penser, quand on regarde la situation mondiale, les grands pollueurs, il y en a qui sont beaucoup plus responsables que d'autres. Mais ici, il dit qu'il ne punira pas juste les grands pollueurs, les petits et les grands. Donc, quand on regarde la situation, est-ce qu'on est des petits pollueurs? Possiblement. Alors, est-ce qu'on a une part de responsabilité dans tout cela? Fort probablement. Est difficile à établir, par exemple, là, par rapport aux gros, parce que les gros, c'est eux, les grands, c'est eux qui polluent le plus, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas notre petite part, nous aussi. Alors, le Seigneur dit qu'il va juger. Et le verset 19 est très intéressant. Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans les leçons précédentes où on a pris des images du temple dans l'Ancien Testament où on nous montrait qu'à l'intérieur du temple, il y avait des parties. Hein? Il y avait le Saint, puis le Saint des Saints. Alors, c'est ça qui est en train de nous faire rentrer. Il veut non seulement faire voir le fait qu'ils vont gagner, mais il dit « Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel. » Donc, ce n'est plus le temple humain, c'est plus le temple temporel, le temple terrestre, c'est le temple de Dieu qui est ouvert dans le ciel. Et l'arche de son alliance. Là, est-ce qu'on se souvient c'est quoi l'arche de l'alliance? Ça peut arriver qu'on lise des passages comme ça des fois, qu'on passe complètement à côté de ce que Dieu est en train de vouloir nous montrer. L'arche de l'alliance, c'était le coffre qui était dans le Saint des Saints, qui était faite, la base était en bois d'acacia, qui représentait l'humanité de Jésus-Christ, couverte d'or, donc représentait l'aspect humain de Jésus recouvert de sa divinité. Et le couvercle qu'on appelle le propitiatoire, était d'or pur. Et sur ce couvercle-là, il y avait deux anges qui avaient la tête penchée, et qui regardait l'intérieur de ce qu'il y avait dans le coffre dans le coffre de l'Alliance. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans, on s'en souvient? Il y avait les tables de la loi, les deux tables de la loi. Il y avait un pot de manne et il y avait aussi la verge d'Aaron qui avait fleuri. Donc, c'est vraiment toutes des choses qui parlent de Jésus-Christ. Et c'est intéressant de montrer que quand il veut montrer la fin, il nous parle que le temple est ouvert, puis il nous dit aussi « l'arche de son alliance parut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix et des tonnerres, et un tremblement de terre et une grosse grêle. » À quelque part, la vision finale, ultime du royaume de Dieu est accompagnée de phénomènes qui sont très épeurants. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand il, vraiment l'été, quand il y a des grosses tempêtes ou qu'il y a des gros éclairs, puis qu'il y a des voix puis des tonnerres, des fois il y a des tonnerres qui te font quasiment lever d'un pied de haut, tellement ça pète fort, là. Et ça dit aussi que quand tout ça est visible aux yeux, c'est qu'à ce moment-là, il y a un tremblement de terre et une grosse grêle. C'est comme si Dieu voulait montrer par les événements météorologiques qu'est-ce qui est en train de se produire dans le ciel est très important. Alors, on avait parlé de la troisième point, pronostiquer. Si on regarde dans un dictionnaire la définition de pronostic, c'est montrer ce qui doit arriver sur l'issue d'une affaire. Un pronostic, c'est montrer ce qui doit arriver sur l'issue d'une affaire. Ici, l'affaire, c'est le royaume de Dieu qui va s'établir, ou la tentative du royaume du malin qui tente de s'établir. Et selon l'Apocalypse, il va réussir, mais pour un temps. Parce que ça va être un désastre monumental et Dieu va finir par intervenir et juger. Et là, ça va être sa défaite finale, sa défaite monumentale. Alors, selon le dictionnaire, donner un pronostic, c'est montrer ce qui doit arriver sur l'issue d'une affaire. C'est annoncer, c'est prévoir jusqu'à l'accomplissement ultime. C'est ça qu'il est en train de nous montrer, là, pronostiquer. Il nous montre l'accomplissement ultime, l'ouverture du ciel, du temple de Dieu. Et il va nous montrer le coffre de l'Alliance. C'est très intéressant. Donc, le pronostic de l'ouverture du temple de Dieu dans le ciel. L'ouverture du temple, bien entendu, est symbolique. Elle signifie la grâce de Dieu qui donne accès à la présence même de Dieu. Donc, c'est une vision anticipative de la victoire finale des croyants. Et comme nous a montré la fin, vous allez gagner. Et là, il nous montre le ciel ouvert. Puis il nous montre la présence de Christ, parce que quand on parle du Saint des Saints, le coffre lui-même représentait la personne de Christ. Sa divinité, c'était le couvercle de l'or pur. Donc, c'était sa divinité. Et la base, le bois recouvert d'or, c'était son humanité. Et c'est très intéressant de voir que c'est la vision finale qu'il montre au peuple. Donc, quand on regarde de la signification christologique. Très intéressant, ça, parce que si jamais vous voulez faire une belle étude sur le tabernacle, prenez le livre que je vous ai mis là, allez sur Internet, regardez sur BibliQuest, l'auteur Russell, qui parle du tabernacle, et il parle de la signification christologique de l'Arche de l'Alliance. Si on lit le passage et qu'on n'a pas la compréhension de ce qui est mentionné ici, là, on passe complètement à côté. C'est ça qu'on fait. Alors, voyez-vous, lui, il dit la signification christologique de l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, ça a une signification. Quand on dit christologique, c'est que toute la signification de cela, quand c'était dans l'Ancien Testament, c'était dans le tabernacle. Après qu'il y a eu le tabernacle, ils ont repris la même disposition et ils l'ont fait dans les temples. Il n'y en a eu plus qu'un. Mais c'était la même disposition, le Saint des Saints. Et il y avait toujours cette partie-là qui était... Tu ne pouvais pas rentrer avant... Il y avait un rideau qui séparait. Il y avait seulement une personne qui pouvait rentrer là. C'était une fois par année. Et avec le sang, en tout cas, c'était... Alors, je vais vous lire ce que lui, il dit. Et c'est très intéressant. Il dit, pénétrant dans le lieu très saint avec révérence et adoration, nous voyons uniquement l'arche couverte du propitiatoire que surmontent les deux chérubins de gloire ainsi qualifiés en Hébreu 9.5. Si vous allez en Hébreu 9.5, vous allez voir, il parle de ces anges-là. Et c'est intéressant de juste se souvenir de ce que c'était. C'était un coffre. Il était le bois d'acacia, c'était du bois incorruptible. Donc, ça parle de Jésus-Christ, son incorruptibilité, recouverte d'or. Donc, c'était un homme qui était à la fois homme et Dieu. Ça, c'était la base. Et le couvercle, lui, était d'or pur, représentait sa divinité. C'est pour ça que les deux anges, en regardant dans l'œuvre, voyaient la parfaite l'humanité et la divinité de Jésus-Christ. Alors, on continue. L'arche est un coffre de bois de Sittim, plaqué d'or pur au-dedans et au-dehors, avec un couronnement d'or tout autour. Selon Hébreux, chapitre 9, verset 4, elle contenait la cruche d'or qui renfermait la manne, la verge d'Aaron qui avait bourgeonné et les tables de l'Alliance. Cette arche et son contenu sont un très beau type de la personne de Christ. La parole devint chair, Dieu manifesté en chair, l'humanité parfaite, qui représente le bois de Sittim, la divinité, qui est représentée par l'or, merveilleusement unie en une seule personne. Le couronnement d'or nous parle de sa gloire excellente. La manne nous rappelle qu'il est notre nourriture chaque jour, mais aussi que lui-même a dit, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. » Jean 6, 47 et 48. La verge d'Aaron qui avait bourgeonné, produisant des fleurs et des amandes, nous parle de la grâce et de la résurrection de celui que Dieu a choisi et qui seul a porté du fruit pour Dieu dans la puissance de la vie et de la résurrection. Quant aux deux tables de la loi ou de l'Alliance, le Seigneur Jésus dit par la bouche du psalmiste au psaume 40, verset 1, « Ta loi est au-dedans de mes entrailles. Sur l'arche repose le propitiatoire entièrement d'or pur. Il protège et enferme le contenu de l'arche. De ce propitiatoire sont tirés deux chérubins d'or battus, placés un à chaque bout. Leurs faces sont l'une vis-à-vis de l'autre et tournées vers le propitiatoire qu'ils couvrent de leurs ailes pour l'ombrager. Ceux qui ont les feuilles, vous pouvez regarder à la page 7, on a l'image du coffre où on voit les deux anges qui sont face à face et qui regardent vers le dedans du coffre. Il dit, par ces images, nous sommes placés devant le trône de Dieu. Les chérubins, qui sont les agents judiciaires de sa sainteté, proclament la solennité de ce lieu. Ils contemplent sur le propitiatoire le sang d'aspersion de la sainte victime frappé par l'épée divine à notre place. Leurs bras sont désarmés car la justice divine est satisfaite. Oui, la justice et le jugement sont les bases de ton trône, psaume 89, verset 14. Ces chérubins, placés de chaque côté, sont comme l'ornement de ce trône où siège celui qui a fait tous les frais pour nous amener là, devant lui, en pleine liberté, sans porter atteinte à ses attributs de sainteté. Ce trône n'est donc plus maintenant pour le croyant un trône de jugement, mais un trône de grâce. Très intéressant de se souvenir de cela. Alors, pour bien apprécier notre passage, nous devons nous rappeler plusieurs choses précisées dans l'Ancien Testament concernant l'Arche de l'Alliance. Bien sûr, on est loin de faire une étude juste approfondie de l'Arche de l'Alliance, mais c'est important de voir les références à l'Ancien Testament, dans Exode, dans la partie Exode 25 à 40, qui parle du tabernacle, et dans toutes les autres parties de la Bible où on nous parle du temple. À l'époque de Jésus, le temple existait aussi. Et la division, elle a existé jusqu'à... La division qu'il y avait entre le Saint des Saints et le Saint existait jusqu'à ce que Jésus meure. Quand Jésus est mort sur la croix, qu'est-ce qui est arrivé? Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Qu'est-ce que ça nous enseignait? C'est que la voie de pouvoir entrer dans la présence même de Dieu était ouverte par la mort même de Jésus-Christ. C'est tellement riche, les Écritures, là. Ça nous ramène toujours à des affaires qu'on a vues dans l'Ancien Testament, mais que parfois on oublie la richesse de tout cela. Si jamais vous avez une chance, je vous ai mis un lien, là, lettre à l'épouse, le lien que je vous ai mis là, vous allez aller pouvoir lire des choses sur le tabernacle qui sont intéressantes pour comprendre le verset 19. Si on lit le verset 19 et qu'on ne fait pas référence à ça, on a complètement passé à côté, on ne comprend rien. Mais si on fait référence à ça, on s'ouvre les yeux, là on voit que dans le fond, il est en train de nous ouvrir, les cieux sont ouverts, le temple de Dieu est ouvert, mais pourquoi il nous montre l'Arche de l'Alliance? C'est parce que ça parle de Christ. C'est en train de nous montrer que la victoire finale va nous avoir été ouverte par Dieu, mais par la personne de Christ. C'est ça la mention de ça. Alors, les choses qui sont regardées dans l'Ancien Testament concernent l'Arche, on va en regarder quelques-unes. La première, c'est que regarder ou toucher l'Arche de l'Alliance était puni de mort. Voyez-vous, on est rendu à la fin, Dieu montre l'ouverture du ciel et il nous montre visuellement. On peut voir, alors qu'anciennement, dans l'Ancien Testament, c'était la mort. Parce qu'il dit, dans Lévitique 16, « L'Éternel dit donc à Moïse, parle à Aaron, ton frère, afin qu'il n'entre point en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. » Là, il est en train de nous montrer que non seulement on va le voir, mais pourquoi on le voit? À cause de notre salut en Jésus-Christ, de la grâce qu'on a reçue en Jésus-Christ. Car il dit, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Le propitiatoire, c'était le couvercle d'or. Et on a aussi Nombre chapitre 4, verset 15 et verset 20. Ça dit dans le verset 15, « Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles sacrés, quand le camp partira, alors les enfants de Kehat viendront pour les porter. » Et ils ne toucheront point les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Vous souvenez-vous, quand il y en a un qui a voulu toucher à l'arche, qu'est-ce qui est arrivé? Uzza? Il est mort. Parce que tu n'avais pas le droit ni de le regarder, ni de le toucher. Deuxième chose qu'on se doit de regarder, qu'on se doit de se tenir compte, donc regarder ou toucher l'arche de l'Alliance était puni de mort. Deuxièmement, l'arche de l'Alliance symbolisait la présence même de Dieu. 2 Samuel, chapitre 6, verset 2. Puis David se leva, ainsi que tout le peuple qui était avec lui, et partit de Baalé de Juda pour transporter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui habite entre les chérubins. Donc, l'idée d'habiter entre les chérubins, c'est vraiment ça représente l'image même de Dieu. Donc, le ciel est ouvert. On peut voir, on peut toucher maintenant et on ne sera pas mort, on ne mourra pas à cause de ça, à cause de la grâce de Dieu. Troisième chose qu'on se doit de se rappeler, c'est que la présence de l'Arche de Dieu est associée à la victoire. Quand tu vois ça, c'est parce que tu es sûr que Dieu va finir par établir son royaume sur la terre et qu'il va complètement détruire celui de l'ennemi. Alors, on voit dans Nombre 14, versets 41-45, « Mais Moïse dit, « Pourquoi transgressez-vous le commandement de l'Éternel? Cela ne réussira point. N'y montez pas, de peur que vous ne soyez battus devant vos ennemis car l'Éternel n'est point au milieu de vous. Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée, parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. Et l'Éternel ne sera point avec vous. Toutefois, ils s'obstinèrent à monter vers le sommet de la montagne. Mais l'arche de l'Alliance de l'Éternel et Moïse ne sortirent pas du milieu du camp. Et les Amalécites et les Cananéens qui habitaient dans cette montagne descendirent et les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Autrement dit, la présence de l'arche de l'Alliance dans un combat, c'était le symbole de la présence même de Dieu avec eux. Et là, il leur avait dit, n'y allez pas parce que l'arche n'ira pas, vous allez perdre. Les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont entêtés. On va y aller pareil. Ils ont été pareils, puis ils ont été battus jusqu'à... Or, moi, ça voulait dire destruction totale. Destruction totale. Quatrième chose à se souvenir, c'est que plusieurs miracles sont associés à l'arche. Quand il y a eu la traversée du Jourdain, alors que le Jourdain était en crue au printemps, je ne sais pas si vous avez déjà vu les rivières en crue, on l'a vu une à un moment donné à Courchir, c'était épouvantable. La rivière était tellement haute que même te promener dans la rue, c'était terrorisant. Le fleuve était dans cet état-là, et Dieu a permis que lorsque l'arche touche l'eau, l'eau a reculé. Il y a des miracles qui étaient associés au fait que l'arche de Dieu, la traversée du Jourdain, il y a aussi la victoire du Jéricho. Quand ils ont fait le tour de la ville cette fois-là, l'arche était là. Hein. Si l'arche n'aurait pas été là, les murs n'auraient pas tombé, il n'aurait pas eu gagné. Alors, si on prenait l'ensemble des Écritures, qu'on regarderait les miracles qui étaient associés au fait que l'arche de Dieu était là, on verrait. Si on regarde par exemple Josué, chapitre 3, verset 13, « Et il arrivera qu'aussitôt que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, auront mis la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, elles s'arrêteront en un monceau. » C'est vraiment miraculeux. Alors qu'au printemps, quand les rivières sont en crue, que l'eau coupe et qu'elle recule, il y avait du miraculeux là. C'était à cause de quoi? La présence de l'Arche de l'Alliance. Et là, il est en train de nous montrer que pour la victoire finale, le ciel, le temple est ouvert et l'Arche de l'Alliance est visible. Non seulement tu peux la voir, mais tu pourrais la toucher et tu ne mourras plus. Alors, il est en train de te montrer quelque chose d'important. Alors, c'est le symbole de la présence de Dieu avec son peuple, l'Arche de l'Alliance, et de son règne sur eux, qui n'est plus caché derrière le voile. C'est important de réaliser qu'avant, seulement le souverain sacrificateur pouvait rentrer une fois par année. Puis c'était caché derrière du voile. C'est quand Christ est mort que le rideau, qui avait, semble-t-il, ça a 2 pouces d'épais, ce rideau-là. Imaginez-vous ceux qui étaient là dans le temple, qui ont vu ça, qui ont entendu... Imaginez-vous un rideau de 2 pouces d'épais qui se déchire, le bruit que ça doit faire, là, de haut en bas. Il devait bien voir qu'il y avait l'association de la mort de Christ avec cet événement-là. Et on a les manifestations des jugements de Dieu sur les ennemis. Il y eut des éclairs et des voix et des tonnerres et un tremblement de terre et une grosse grêle. Bien entendu, pour les ennemis de Dieu, c'est l'annonce de l'imminence du jugement. On parle de la 7e trompette, là. Ces événements spectaculaires révèlent la majesté de Dieu et annoncent le désastre terrifiant qui viendra maintenant que la 7e trompette a sonné. Les croyants n'auront rien à craindre au jour du jugement. Cependant, le jugement de Dieu sera terrible pour ses ennemis. Nous avons tendance, lorsque vient la perplexité, la douleur, la tribulation et les épreuves, de fixer nos regards sur nous-mêmes. N'est-ce pas que c'est vrai, ça? Quand il arrive des choses difficiles, perplexité, douleur, tribulation, épreuve, on a tendance à se regarder le nombril. C'est ça qu'on fait. Alors qu'on se devrait de lever les yeux en haut et de se souvenir que Christ est là. Les Saintes Écritures nous enseignent de tourner nos regards vers Jésus, comme on le voit dans Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte, regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, méprisant l'ignominie à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors, au lieu de se regarder le nombril quand il nous arrive des choses difficiles, relevons toujours le regard et regardons à Jésus. C'est là qu'on peut regarder avec intelligence. Trois applications. Dieu est gracieux. Il veut que nous connaissions l'issue du combat que nous menons sur la terre contre les forces combinées de l'ennemi. Il nous fait savoir que le moment approche où les royaumes de la terre, qui sont contrôlés actuellement par Satan, mais sous le contrôle ultime de Dieu, se soumettront finalement à Dieu et à Christ. Rendons-lui grâce pour son omniscience et sa souveraineté dans la direction des affaires humaines. Deuxième application, joignons-nous au cœur céleste, les 24 anciens, les anges et les élus, pour célébrer la toute-puissance de Dieu, sa souveraineté absolue, son infinité et sa sagesse. Avec eux, élevons nos voix pour rendre grâce avec adoration et humilité. La justice parfaite de Dieu va se manifester dans ses récompenses envers les élus et les terribles jugements envers ses ennemis. Alléluia. Troisièmement, louons Dieu pour sa fidélité envers son alliance. Ses promesses s'accomplissent toujours. Étudions avec diligence le sujet de l'alliance de Dieu, du tabernacle et de l'arche de l'alliance. C'est une étude richement récompensée pour notre compréhension de la glorieuse personne de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Messie, notre Maître. Que la glorieuse personne de Jésus-Christ soit exaltée, louée et adorée éternellement. Amen.
Amen.